Donc, nous allons continuer dans cette série, la nuée et la gloire de l'Éternel. Nous l'avons rencontrée pour la première fois, c'était dans le livre de l'Exode. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons aller jusqu'au chapitre 21 de l'Apocalypse, puisque c'est une réalité qui est dans toute la Bible. Le titre que j'ai donné à l'étude de ce matin, c'est « La nuée, hier, aujourd'hui, éternellement ». Puisque cette nuée représente la présence de Dieu, la gloire de Dieu, et comme Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ben c'est aussi une réalité. Ce que nous avons déjà vu dans les deux prédications précédentes, c'est où la nuée a conduit le peuple de Dieu, et aussi communiquer ce désir de Dieu d'être parmi son peuple. On a vu ça dans Exode chapitre 40. Nous avons vu aussi cette vérité soulignée dans la manière dont la nuée et la gloire de Dieu ont envahi le temple glorieux à échelle humaine, le temple de Salomon. Et la nuée avait cette manière particulière, et on l'a rencontrée chaque fois, c'est que lorsque cette nuée pénétrait dans soit le tabernacle, soit dans le temple de Salomon, eh bien, chassait tout le monde. Tout le monde était obligé de sortir pour ne laisser que Dieu. Et là, je rappelle à votre mémoire, vous rappelez Jésus avec ses trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, sur le mont appelé le mont de Transfiguration. Et rappelez, Jésus était en train de prier, les disciples étaient là, et tout d'un coup, Pierre lève les yeux et il voit Jésus en train de discuter avec Moïse et Élie. Et là, tout d'un coup, Pierre, il se met à parler, puis il réfléchit plus tard, mais... Et il dit, ah mais c'est formidable, on va construire un temple pour Moïse, pour Élie, pour Jésus, comme ça, voilà, on aura les trois. Et tout de suite, il y a une nuée qui arrive, et elle fait disparaître Moïse et Élie, et ne laisse que Jésus seul. La nuée chasse les hommes. Même si Moïse, même Élie, n'importe quel homme, la nuée de Dieu les chasse. Mais elle n'a pas chassé Jésus. Et ce qu'on voit, c'est Jésus, lui seul. Lui, il ne fait pas partie des autres. Lui a le droit. Et lui reste dans ce tabernacle. Il reste là. Pierre, il a parlé comme un homme, et chez les hommes, c'est ça, oui, ah oui, on veut tous ces saints, alors on a des hôtels pour tous les saints, ou bien on reconnaît tous ces prophètes, voilà les prophètes pour les juifs, voilà le prophète pour les chrétiens, et voilà le prophète pour tout le monde, et puis, et on a toutes sortes d'expressions comme ça. Mais Dieu ne voit pas la chose de cette manière-là. Lui, il y a Dieu et il y a Dieu et personne d'autre. Et la nuée, c'était une manière de voiler tous les autres, de cacher tous les autres. Quand dès que l'homme veut associer, approcher quelqu'un de Dieu, la nuée arrive pour les sortir. Et dans notre esprit aussi, il faut que nous permettions à la nuée de Dieu de pénétrer dans notre cœur et chasser de notre pensée de tous les autres. Ils n'ont pas de place à côté de Dieu. Dieu seul. Et ce que nous voyons, c'est Jésus-Christ qui peut rester là aussi, parce qu'il est Dieu. Et il n'est pas un autre, il est Dieu, et s'est révélé, incarné dans la chair, pour que nous puissions lui parler, pour qu'il puisse être parmi nous, mais en lui, réellement, eh bien, Dieu était là. Et donc, hier, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce que nous voyons concernant la nuée? Regardez avec moi dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe, c'est on emploie l'expression un grand prophète. En général, grand prophète, petit prophète, ça avait à faire plus avec la longueur de leur révélation, de leur livre, plus que un prophète, c'est un prophète, il n'est rien sans Dieu. Mais Ésaïe, Dieu avait révélé beaucoup de choses au travers d'Ésaïe. Et donc, Ésaïe chapitre 6, et nous allons lire les versets 1 à 7. Et regardez dans ce contexte de la nuée et de la gloire de Dieu, cette vision d'Ésaïe. Donc, Ésaïe chapitre 6, et je commence à lire au verset 1, il nous dit « L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins, c'est un ordre d'anges supérieurs, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se couvraient, servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité était enlevée et ton péché est expié. » D'ailleurs, comprenons que c'est une vision et dans la Bible, Dieu, pour nous parler, il était obligé de prendre un langage humain, des images terrestres pour essayer de nous communiquer des réalités qui n'ont aucun équivalent dans notre monde. Dieu essaie de nous parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il doit se servir de notre vocabulaire, de notre langage. Alors, ce que nous devons faire dans ces situations-là, ce n'est pas de nous attarder, d'essayer d'imaginer des anges, et puis avec des ailes. La question, ce n'est pas d'essayer de s'imaginer quelque chose, parce que c'est un monde immatériel. Ce sont des images, mais il se sert de cela pour nous communiquer des vérités concernant Dieu. Et ce qu'il nous faut, c'est retenir ces vérités. C'est vrai que lorsqu'on lit cela, c'est impressionnant, ce sont des mots qui stimulent notre imagination, mais nous devons nous concentrer sur les vérités, et le but, c'était de nous révéler Dieu. Donc, au travers de cela, ce n'est pas d'essayer d'imaginer comment c'est le ciel, c'est comment est Dieu. Parce que c'est là le but de la révélation. Dans Ézéchiel chapitre 10, nous voyons que lui a eu quelque chose, une vision semblable. Ézéchiel chapitre 10, et si je lis les versets 3 à 5, il nous dit « Les chérubins étaient à la droite de la maison, quand l'homme alla, et la nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva au-dessus des chérubins et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de la nuée, et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. » Le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Donc ce sont des mots, il emploie les mêmes mots pour essayer d'exprimer une réalité. Nous devons comprendre d'abord qu'il essaie d'exprimer la sainte gloire de Dieu. Et elle se répand dans le temple, là où Dieu se trouve, elle se répand comme les nuages sur les montagnes, ou bien comme un brouillard sur la plaine. Ça vient, puis c'est doucement comme ça, puis ça envahit. au point que, et si c'est très épais, on ne voit plus rien. Et il nous dit, mais la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est pas physique. Hein, nous, on est physique, on est contenu dans une peau, et on ne peut pas être ailleurs que dans notre peau. Mais Dieu, il exprime par cette nuée sa présence, il peut la faire ressentir de partout. Et elle envahit. Et il dit, surtout le temple, et le lieu de son habitation, c'est là qui est rempli de sa personne, de sa présence et de tous ses attributs. Hein, Dieu, on ne le décrit pas comme étant grand ou petit, on ne mesure pas ni la longueur, ni la hauteur, ni la profondeur, mais Dieu, on le mesure par ses attributs. Hein, parce que Dieu est esprit. Encore une fois, hein, je souligne, et dans tous ces cas, eh bien, tout le monde est gêné, hein, tout le monde part. Même dans cette vision de Ésaïe 6, Dieu qui choisit de se révéler à Ésaïe, et tout d'un coup, Ésaïe est mal à l'aise. Pourquoi ? La présence de Dieu. Tout d'un coup, Ésaïe, ce grand prophète que Dieu a utilisé pour révéler beaucoup de choses, mais tout d'un coup, il se sent mal à l'aise, il se sent souillé, il se sent sale. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Et Dieu lui dit, non, mais lorsque je te purifie, tu peux être dans ma présence. Mais lorsque nous présentons nos bonnes œuvres pour essayer de se présenter pur devant Dieu, ça ne marche pas. C'est lorsque Dieu nous purifie, lorsque Dieu dit, nous déclare juste, c'est que là, nous avons accès, nous pouvons entrer dans sa présence. Vous savez, c'est ce principe de là où Dieu est, ça chasse tout le reste. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Et là, nous avons les versets 14 à 16, où justement, il souligne cette vérité, et c'est quelque chose de vrai encore aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 16, nous dit « Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ?» On ne peut pas faire cohabiter la justice et l'iniquité. « Et qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» On ne peut pas et avoir les ténèbres et la lumière dans un même lieu. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Bélial, ce serait Satan. Et quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il dit... Vous êtes mon peuple, j'habiterai au milieu de vous. Et lorsque j'habite quelque part, tout ce qui ne correspond pas à moi doit partir. Que ce soit l'être humain, que ce soit un ange déchu, rien dans la présence de Dieu. Rien qui soit en contradiction avec sa personne. Rien qui ne corresponde pas à lui. Et donc, bien sûr, nous nous réjouissons du fait, oui, le Saint-Esprit est présent en moi, je suis le temple du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand il rentre, tout le reste doit partir. Tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui n'est pas compatible à Dieu. On ne peut pas être une chose dimanche et autre chose lundi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ou Dieu, ou le Saint-Esprit est triste en nous et on lui impose une cohabitation, ou bien on chasse tout. Hein, mais, et ce n'est pas la peine de garder des placards secrets parce qu'il veut occuper tout. Et chasse tout ce qui ne correspond pas à lui. Il nous dit dans Ésaïe 42, Et aussi, Ésaïe 48, il nous dit, l'Éternel ne partage pas sa gloire, ni avec un homme, ni avec un ange déchu. Il ne partage pas sa gloire. Il n'y a que lui. Et souvenons-nous de ce principe. Il le révèle, il le souligne par tous ces passages que nous avons lus où la nuée de Dieu, lorsqu'elle pénètre, l'homme part. Les pensées de l'homme, les philosophies de l'homme, les valeurs de l'homme, tout, c'est Dieu qui prédomine. C'est Dieu. Et c'est, dans un sens, c'est mettre en valeur la seigneurie de Christ dans nos vies. Dans 1 Pierre chapitre 14 et 15, il nous rappelle cela. Hein, ce sont des réalités. Et donc, nous devons vivre une autre vie. Donc, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 14 et 15, il dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, c'est-à-dire ne prenez pas la même forme, aux convoitises que vous aviez autrefois, lorsque vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints, dans toute votre conduite. » Cette semaine, je discutais avec quelqu'un, et puis il y avait un aspect de sa personne, elle dit, moi, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Et c'était un trait de caractère qui était un peu difficile, qui créait des difficultés avec les autres. Et dans les relations avec les autres. Et tout de suite, j'y ai pas pensé, mais plus tard, j'y ai pensé. J'ai dit, mais en tant que chrétien, ça devrait plus être vrai. Ce qu'il nous dit, ce que j'étais, le caractère que j'avais avant, finalement, il doit disparaître. Il dit, oh, mais je suis comme ça. Ben, tu devrais plus être comme ça. Si tu appartiens à Jésus-Christ, tu devrais plus être comme ça. Si c'est quelque chose qui est incompatible à la vie chrétienne et ça empêche de vraiment manifester la charité chrétienne, eh bien, ça devrait plus être là. Et je sais, dans le monde, ben, les gens ils disent, ah ouais, mais moi, ça, c'est moi, je suis comme ça. Moi, je suis coléreux ou quand je mets en colère, je claque, et puis voilà, c'est comme ça, alors acceptez-moi. Bon, ben, c'est le monde, il n'y a pas d'autre option, il n'y a rien pour se défaire de ça. Mais tant l'enfant de Dieu, lorsque le Seigneur pénètre dans sa vie, il commence à transformer, eh bien, ces choses doivent partir, et tout d'un coup, il y a autre chose qui transparaît. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je garde ma personnalité, mais certaines habitudes, certains traits de caractère qui sont issus de ma nature pécheresse, ben ça, je peux l'abandonner. Mais ce que je garde, c'est ma personnalité. Hein? Et ce que nous voyons, c'est Pierre a toujours été Pierre. Mais il a quand même perdu l'habitude de dire des bêtises, hein? de sans réfléchir, de dire ce qui lui passait par la tête. Hein? Après Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a pris possession de lui, après, quand il ouvrait la bouche, c'était autre chose. Mais sinon, c'était toujours Pierre. Et Paul, c'était toujours Paul. Bon, il a dit, j'étais violent, j'étais... Mais je ne le suis plus. Pourquoi ? C'est la grâce de Dieu a fait une œuvre dans ma vie. Mais sinon, toutes les connaissances qu'il avait, eh ben, elles ont été utiles et les a mis au service de Dieu et pour devenir un prédicateur très efficace. Donc, la nuée et les réalités que nous constatons, que nous comprenons au travers de cela, eh bien, hier, c'était vrai. Mais aujourd'hui aussi, regardons dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 31. Donc, nous sommes dans les Actes des apôtres. Donc, il s'agit de l'Église primitive. Et c'est la période dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Hein, c'est la période de l'Église. Et donc, Actes chapitre 4, verset 31. En fait, je vais vous rappeler un peu le contexte. Pierre et Jean, venaient, venaient, c'est dans le chapitre 3, ils venaient au temple, ils ont rencontré un homme de 40 ans qui est boiteux depuis sa naissance. Il n'a jamais marché. Il a 40 ans. Et il est en train de mendier, on l'a porté, on le posait devant une porte principale du temple, et il mendiait, c'est comme ça qu'il pouvait subvenir à sa vie et peut-être la vie d'autres aussi. Et la Pierre et Jean le regardent. Et lui, il les regarde aussi, se disant, peut-être ils vont me donner quelque chose. Ils se sont arrêtés, ils me regardent. Regarder comme ça, et puis après ne rien faire, c'est un peu mal poli. Hein. Alors Pierre et Jean les regardent. Il dit, de l'argent, de l'or, on n'en a pas. Mais ce qu'on a, on va te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Puis il se lève et il marche. Et pas seulement qu'il marche, hein, c'est pas comme ça. Wow, alléluia, gloire à Dieu, il marche. C'est pas ça. Il s'est levé, il a marché, il a sauté. Sans éducation. Vous savez, l'être humain ne sait pas marcher à moins d'apprendre. Ça s'apprend. Et si on ne le pratique pas, ça se perd. Et alors, bien sûr, c'est sûr que ça... Même à l'époque, c'était miraculeux. Mais aujourd'hui, ça le sert aussi. Hein, avec toutes les connaissances qu'on a de la science, aujourd'hui, c'est encore plus incroyable. Parce qu'on comprend plus la difficulté. Et alors, lui, bien sûr, il est tellement content. Je ne peux pas dire que je le comprends, je n'ai jamais été à sa place. Mais lui, il louait Jésus-Christ. Hein, c'était au nom de Jésus, donc il louait Jésus. Ces scribes, les pharisiens, tous ces gens-là, les chefs religieux, ils ont dit, oh, nous on a tout fait pour essayer de discréditer Jésus, et le voilà, celui-là, ah, il le met en valeur. Tout notre travail, tous nos complots, tous nos mensonges, tout ça, il est en train de tout casser. Bien sûr, ils n'étaient pas heureux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, c'est encore ce Pierre et Jean là. Et ils les prennent, ils les arrêtent, et puis le lendemain, ils les font comparaître devant le Sanhédrin, et on leur dit, mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en train de... Et finalement, après toute la discussion, il leur dit, écoutez, nous vous interdisons absolument de ne plus parler ni enseigner en ce nom. Et Pierre regarde, il dit, mais comment ne pas parler alors qu'on a vu? On connaît Jésus, on sait ce qu'il a fait, comment ne pas parler? Est-ce qu'on doit vous écouter ou est-ce qu'on doit écouter à Dieu qui nous a dit d'être des témoins? Et on dit, écoutez, ne parlez plus, et puis ils ont chassé, parce qu'ils n'avaient plus quoi faire avec eux. Et alors on arrive à la fin de ce chapitre 4, donc acte chapitre 4, le verset 23 nous dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, donc les frères et sœurs, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc ils leur disent, vous savez, on a été menacés, vraiment menacés, vous aurez dû voir leur tête. Ils sont vraiment en colère avec nous. Ils ne veulent plus qu'on parle de Jésus. Et c'est sûr que, premier abord, ça, hein, vous pouvez essayer d'imaginer une situation. Regardez. Alors que là, il y a le choc. Mais tout d'un coup, l'ambiance change d'orientation. Pourquoi ? Remarquez, on ne parle plus de ce que les anciens ont dit, mais on commence à parler à Dieu. Verset 24, « Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, alors qu'ils étaient des ennemis avant, se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Finalement, ils se sont tous rassemblés pour être contre toi, et ils ont fait ce qu'ils avaient dans leur cœur et ce qu'ils avaient de pire dans leur cœur. Ils ont tué Jésus alors qu'il était innocent. Mais en fait, quand ils ont fait cela, ben c'est exactement ce que tu avais prévu. Et ils ont accompli ton plan. Et une étape importante, c'est que Christ meurt sur la croix pour les péchés. Et ils l'ont fait. Ils sont en train de penser à cela. Il dit, verset 29, « Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Finalement, et là, tout d'un coup, ils changent. Ils ne sont plus sous l'effet et l'impact des paroles des scribes et des pharisiens et tout ça. Mais maintenant, ils sont sous l'effet de la parole de Dieu. Et ça change tout leur langage. Ça change toute la manière de voir. Et regardez ce qui se passe. Comme nous l'avons vu déjà dimanche dernier. Vous savez, quand avec ils ont amené l'arche de l'Alliance, ils l'ont mis dans sa place, dans le lieu très saint, dans le temple, à l'époque de Salomon. Hein. Et après, ils ont commencé à louer le Seigneur. Et à ce moment-là, la nuée a pénétré et a pris possession. Eh bien là, ils sont en train de faire encore une fois, par la parole, ils disent « Dieu, tu es Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre Maître, nous te mettons à ta place. Et nous te remercions pour tes œuvres et parce que tu accomplis ton plan. » Ils sont en train de mettre en valeur Dieu et ses œuvres. Et quand on met tout cela en place dans nos pensées et on les exprime devant Dieu par la louange, eh bien, regardez ce qui s'est passé au verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis. » Vous voyez, c'est comme la nuée qui pénètre, remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Et oui, ça change tout. Au lieu que nos pensées soient moulées, formées, orientées par ce que pensent celui-ci et celui-là, c'est la pensée de Dieu qui nous dirige. Et ça change tout. Ces gens qui, avant Pentecôte, ils se cachaient dans la chambre haute, maintenant ils disent, Seigneur, donne-nous de pas seulement ne pas parler, mais de parler encore plus. Et donne-nous des miracles et des démonstrations de ta présence et du fait que Jésus-Christ est ressuscité encore plus puissante que ce qu'on a fait. Je vous fais remarquer, en passant une petite parenthèse, parce qu'on voit qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, je vous fais remarquer qu'ils n'ont pas parlé en langue. Hein. Certains viennent nous dire, ah, il faut la plénitude du Saint-Esprit, et on parle en langue. Écoutez, ils n'ont pas parlé en langue, là. Mais ce qu'ils ont fait, c'est annoncer la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, quand il leur avait promis le Saint-Esprit, il a dit, vous serez mes témoins et vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, nous l'avons, c'est justement pour proclamer la parole de Dieu. Je fais remarquer que Étienne, dans Actes chapitre 7, a été rempli du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé en langue, mais il a annoncé Christ. Paul, dans Actes chapitre 9, quand Ananias a imposé les mains sur lui, il a été rempli de l'Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas parlé en langue, mais il a prêché Christ à Damas. Dans Actes chapitre 13, Paul et Barnabas avaient prêché Christ et il nous dit ils sont remplis de la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Vous savez, il y avait une raison pourquoi, à un certain moment, il y avait un signe du parler en langue. Je ne vais pas le traiter ce matin, mais c'est juste pour vous dire que la plénitude du Saint-Esprit, ça équivaut pas à parler en langue. Parler en langue. À Pentecôte, oui, Actes chapitre 2, dans la chambre haute, ils étaient remplis de l'Esprit, ils sont sortis dans la rue, ils ont parlé en langue, mais ils ont annoncé Christ dans des langues différentes à ceux qui étaient là. c'était pas ce qui est extraordinaire, c'est pas le fait qu'ils parlent en langue, c'est le fait qu'ils annoncent Christ avec force et courage. Quand la présence de Dieu envahit, prend possession, l'homme se comporte différemment. Il nous dit dans Éphésiens, il nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Et qu'est-ce qu'il dit dans les versets suivants ? Eh bien, louez Dieu, chantez sa gloire. C'est là. Et donc, ce que nous devons retenir, c'est que pour nous aujourd'hui, c'est que cette plénitude de l'Esprit, l'équivalent de cette nuée qui envahit le temple, hein, notre corps et le temple du Saint-Esprit, eh bien, c'est pour que nous ayons une capacité nouvelle, un courage nouveau pour annoncer sa parole sans en avoir honte. Et puis, nous avons vu Ésaïe hier, dans l'Église primitive aujourd'hui, et regardons dans Apocalypse chapitre 15 maintenant. Ça, Apocalypse, vous savez bien, c'est prophétique. Il s'agit d'événements futurs. Apocalypse chapitre 15, et je lis les versets 2 à 6. Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 6. Il dit, puis je vis dans le ciel un autre signe, un grand et admirable. Sept anges qui se tenaient, sept fléaux et les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc c'est la suite des événements précédents, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais regardez au verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Donc, c'est Satan, hein, c'est le représentant de Satan, il avait une trinité à lui. Et le nombre de son nom, il était debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Donc, ces personnes, hein, pour aller rapidement là, ce sont ceux qui ont refusé de se soumettre à Satan et ses représentants. Ils n'ont pas pris le nombre de la bête, ils ont refusé, ils sont restés attachés à Christ, et le résultat, c'est qu'ils sont certainement morts en martyrs, et leurs âmes sont là devant la présence de Dieu. Et ça me fait penser à cette parole de Jésus à ses disciples qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Donc ces hommes, ils n'ont pas craint, même Satan et toute sa puissance et sa manifestation dans les derniers temps. Et ils sont morts pour cela, mais leur âme était auprès du Seigneur. Et vous savez, et là encore, Dieu leur donne des harpes pour louer le Seigneur. Et je continue à lire, donc verset 3, il dit « Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, c'est-à-dire Jésus, en disant, et voilà un résumé, le contenu hein, de leur chant, l'orientation, hein, c'est ça qu'il nous donne, il nous dit « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » L'orientation, c'est encore, c'est qui Dieu est, et ses œuvres, et ce qu'il a pu accomplir. Et là, encore une fois, il le chante. Dieu est à sa place. Eux se positionnent par rapport à lui. Il est à sa place dans leur pensée, dans leur cœur, dans leurs priorités. Il est à sa place. Et il chante, il le loue pour qui il est et pour ses œuvres. Le résultat? Eh bien, regardez au verset 7. Verset 8. Verset 8, il dit « Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient remplis. » Encore une fois, eh bien, quand tout, Dieu a sa place, l'homme se positionne par rapport à Dieu, Dieu, il est à sa place. Et quand je le mets par rapport à moi, je me positionne par rapport à lui correctement, il est à sa place dans sa vie, et dans ma vie et dans ma pensée, et que je loue ses œuvres, eh bien là, il peut venir prendre possession. On n'a pas besoin, c'est pas en jeûnant, c'est pas en se faisant toutes sortes de choses. Non, non, c'est juste en mettant les choses dans l'ordre, c'est tout. Et c'est ça l'ordre que Dieu veut, et on met les choses dans l'ordre, et la nuée vient d'elle-même. Et il nous parle d'un temple, là, c'est le temple, certainement, c'est le temple qui a servi de modèle à Moïse, hein, et quand il a fait le tabernacle, il a fait selon le modèle que Dieu lui avait donné, c'était ce modèle-là. Mais ce que nous voyons, c'est que Et dans ce temple-là, il nous dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, je ne vais pas lire tous les passages, mais vous lisez le chapitre 9, vous voyez, il nous parle du temple qui a été copié, mais dans lequel Jésus est entré. Avec son propre sang, il est entré dans ce temple, il a ouvert la voie. Et vous rappelez dans Matthieu, quand il est décrit, il nous dit que le voile du temple a été déchiré quand Christ est mort sur la croix. Au moment où il a dit « Tout est accompli », à ce moment-là, le voile s'est déchiré. La voie est ouverte pour l'homme pécheur. Pourquoi ? Parce que le sacrifice est offert. Et Jésus a pu entrer. Et à la fin du chapitre 9, il nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Donc Jésus-Christ, lui, eh bien, il est rentré pour nous en tant que notre représentant. Il est allé jusque dans la présence de Dieu. Tout se met en place, tout se met en ordre. Nos péchés sont expiés et nous avons accès et nous pouvons entrer franchement. Donc ce n'est pas sur la base de nos œuvres, ce n'est pas de base d'autre chose, sinon le sang versé de Christ. Et je termine avec Apocalypse chapitre 21, avec cette notion de la gloire de Dieu. Alors, Apocalypse chapitre 21 nous décrit la nouvelle Jérusalem, nouveau cieux, nouvelle terre, nouvelle Jérusalem. Et regardez les versets 22 et 23. Il dit « Je ne vis point de temple dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et 23, la ville n'a pas besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. C'est cette pensée de la gloire de Dieu à travers toute la Bible. Autant il y a ce fil rouge qui nous parle de ce sacrifice qui doit expier le péché, autant nous avons cette notion par la nuée, par la fumée, par la gloire de Dieu qui traverse toute la Bible pour nous dire je veux que vous veniez à moi, j'ai tout fait pour que vous puissiez être avec moi. Et dans le lieu très saint, eh bien, ce qui demeurera, c'est la gloire de Dieu qui sera une lumière pour nous. Mais pour ceux qui ont leurs péchés expiés par le sang de Christ. Christ est déjà mort, le sang est déjà versé, mais ce qu'il faut de la part de chacun d'entre nous, c'est dire « Seigneur, applique ce sang à ma vie, à mes péchés. Oh, mes péchés sont nombreux, et sont même plus nombreux que je ne pense, et surtout que pensent les autres. Mais ce qui me regarde, c'est toi. et je te demande de pardonner mes péchés par le sang versé de Christ. Et maintenant, je veux vivre pour toi. Je veux te mettre à ta place dans ma vie. Je veux te louer par mes actes, par mes chants, par mes paroles. Je tourne l'attention toujours, quiconque me voit, voit que je tourne l'attention vers toi. Et puis, et vous savez, Dieu prendra possession de notre vie. Et ce qui transparaîtra, ce sera son œuvre et non pas mon ancien caractère. Nous allons prendre quelques moments pour prier. Je vais laisser un moment de silence pour que vous puissiez dire à Dieu ce que vous avez besoin de lui dire, quel que soit votre besoin, ce que vous avez compris de tout cela. Et ensuite, je terminerai par la prière.